Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien calés sur l'émission favorite du troisième jeudi de chaque mois. Et vous retrouvez donc ce soir, comme à l'habitude, Mathieu La Technique. Bonsoir Mathieu. Patrick à mes côtés. Bonsoir Patrick, comment vas-tu ?
Ça va, ça va. C'est beau.
Alors, nous allons effectivement parler ce soir de quel thème ? Alors, lançons un petit extrait musical. Un joli morceau, c'est Idir. Nous allons donc parler, pas très loin de la France, il suffit de traverser la Méditerranée, qui s'appelle l'Algérie. Et pour ce soir, donc pour cela, nous accueillons Saadi. Bonsoir Saadi.
Bonsoir.
Alors je présente rapidement Saadi. Saadi est professeur de mathématiques. On va discuter avec lui donc ce soir de l'Algérie.
Il a des racines algériennes.
Effectivement. Un petit qui suis-je donc ? J'ai été assassiné en direct à la télévision et j'étais un des créateurs du FLN. Qui suis-je ? Alors nous allons donc entamer cette conversation sur la partie la plus, je pense, dramatique de cette histoire. C'est la naissance de l'État algérien qui commence, il faut bien le dire, par ce qu'on a appelé au départ des opérations de maintien de l'ordre, mais qui était en fait effectivement un conflit civil entre, on va dire, l'Algérie, ou tout du moins les habitants d'Algérie, et les Européens qui étaient installés en Algérie, c'est-à-dire ce qu'on a appelé plus tard, ou qu'on a appelé à l'époque, les Pieds Noirs. Alors, l'histoire pourrait commencer le 8 mai 1945 de façon plutôt positive. Pourquoi ? Le 8 mai 1945, c'est la fin réelle de la Seconde Guerre mondiale sur le continent européen. Et qu'est-ce qui se passe à Sétif ? Nous sommes à Sétif, c'est la région de Constantinois. Eh bien, les Algériens, pour fêter ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pavoiser dans les rues, et non pas avec le drapeau français, mais avec le drapeau qui sera bientôt le drapeau algérien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Saadi ?
C'est juste pour préciser au fait que le 8 mai 1945 en Algérie, avant cette date-là, en fait, la France avait demandé aux Algériens de venir combattre avec elle contre l'Allemagne. Et pour les convaincre, on leur a promis, une fois qu'on a gagné la guerre contre l'Allemagne, eh bien, on vous donnera votre indépendance. C'est pour ça que...
D'accord, il y avait un genre de promesse quand même.
Exactement.
Non écrite, évidemment, je présume.
Exactement. Ouais. Et voilà, les Algériens ont combattu aux côtés de la France. Et quand arrive le 8 mai 1945, évidemment, ils se sont dit, tiens, la France va nous donner notre indépendance.
D'accord.
Et du coup, ils sont sortis dans les rues.
D'où le contexte.
De joie, etc.
D'accord.
Et justement, à l'époque, vous avez en France donc, le gouvernement provisoire de la République qui dit, ne peut pavoiser sur le territoire français, parce que l'Algérie, c'est la France, que des drapeaux français. Et donc, c'est là que ça éclate. Donc vous avez... Alors les victimes...
Une répression super violente.
Alors justement, les victimes côté français, on estime à environ une centaine. Côté algérien, les chiffres varient beaucoup. Ça va de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers sur quelques semaines.
Il y a une estimation quand même qui a été donnée qui est de 45 000.
Ah ouais,
c'est ce qu'on a dit après. C'est variable en fait.
Voilà, voilà.
Ouais. Mais toujours est-il que ça a été absolument épouvantable. D'autant plus que les Algériens ont pris ça comme une recolonisation. Et ça, tu as parfaitement raison de le dire.
Exactement.
Et ça n'a pas plu du tout au peuple algérien. Mmh. Alors, à l'époque, les premiers mouvements indépendantistes s'appelaient notamment le PPA, le Parti du Peuple Algérien, de Messali Hadj. Et donc la répression est très féroce. Le gouvernement français met en place donc un gouvernement quasiment militaire. Le général Duval est chargé de la répression contre le peuple algérien. Et il dit, écoutez bien... donc quelques semaines après le 8 mai. Donc là, on est au mois de juin, juillet 1945. Il dit cette phrase qui, moi, m'a marqué. Je reprends ces termes. « Je vous donne la paix pour 10 ans. À vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés. Une politique constructive est nécessaire pour établir la paix et la confiance. » Et je pense que là-dessus, il avait anticipé les choses.
Oui, d'accord.
Je vous donne la paix pour 10 ans, c'est tout. Donc tout est, il le sait à l'avance.
Il avait déjà une bonne connaissance de
exactement du terrain. Tout était temporaire.
On va dire approximativement 10 ans après, c'est la guerre d'Algérie.
Oui, et l'événement marquant, vous le savez, c'est la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954, où une vague d'attentats va donc commencer à s'abattre sur l'Algérie. D'accord. Faisant évidemment donc la spirale de violence ne va cesser jusqu'à l'indépendance, avec des dates qui vont marquer et des phrases aussi qui vont marquer l'histoire. Je rappelle que en novembre 1954, le ministre de l'Intérieur s'appelait un certain François Mitterrand, et qu'il dit l'Algérie c'est la France, donc il n'y a aucune concession possible avec le peuple algérien. Donc on imagine bien que le FLN, le Front de Libération Nationale, qui prépare, et vous le savez, à l'époque, il faut lire la charte, par tous les moyens, l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est un conflit armé qu'on n'appelle pas conflit ni guerre à l'époque.
Bah non, ça c'est interdit.
On appelle ça, exactement,
les
opération de maintien de l'ordre.
Ouais, c'était des événements.
Les événements d'Algérie. La France ne veut pas admettre qu'il y a une guerre civile, on peut le dire.
Exactement.
Sur son territoire d'outre-mer, sur son territoire qui est situé, je le rappelle quand même, quand on traverse la Méditerranée, juste en face de Marseille.
Exactement. Je voulais juste préciser une chose. Après le 8 mai 1945, au fait, c'est là où le Front de Libération Nationale est né pour passer au fait, à l'action,
armée
militaire. Voilà. Donc plusieurs membres se sont organisés pour la création d'un front, justement, de libération nationale, où les différents partis, etc., se sont réunis pour, justement, créer ce front.
Et il y avait différents partis, il me semble.
Avant.
Oui, il y avait différents partis, mais celui qui va prendre en fait tout de suite le dessus, c'est celui-là, avec sa branche armée qui s'appelle l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, partir surtout de 54. Alors j'ai quelques dates, des dates fondamentales. 1956, la France envoie des militaires du contingent. C'est-à-dire qu'à partir de avril 56, il y aura, écoutez bien, en permanence, 500 000 Français, soldats français sur le territoire algérien.
C'est un demi-million. C'est énorme,
Et là, ça touche aussi le territoire français, parce qu'on va voir un frère, on va voir un papa, on va voir un cousin partir en Algérie, et pour certains ne pas revenir. Donc ça devient très impopulaire, cette affaire. Très, très impopulaire, d'autant que les massacres continuent, il y a ce qu'on appelle les poseurs de bombes, et on continue dans l'escalade. Alors, je pourrais citer évidemment la bataille d'Alger, d'ailleurs c'est un film à voir, je ne sais pas si ça a dit, tu l'as vu.
Oui, exactement, c'est un très bon film.
Alors, la bataille d'Alger, c'est quoi ? Je simplifie les choses, vu que le gouvernement ne s'en sort pas, on est sous la 4e République. L'Assemblée décide, ça c'est important, cette date, de donner les pouvoirs de police à l'armée. Et quand on donne les pouvoirs de police à l'armée, c'est généralement mauvais signe.
Ça sent pas bon.
Donc, quand vous donnez les pouvoirs de police à l'armée, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez forcément l'utilisation de la torture.
Ah, ouais.
Donc, c'est ce qui va arriver. Alors, évidemment, le FLN aussi... c'est pas des enfants de cœur, faut quand même le dire. Donc il y aura des actes absolument abominables qui vont être réalisés. Je ne rentre pas dans les détails. Donc ce qui fait qu'on ne s'en sort pas. La bataille d'Alger est en partie gagnée, mais il y aura un transfert de la guerre d'Algérie, non plus vers les grandes villes, mais vers les montagnes. Donc c'est-à-dire que l'ALN et le FLN, ils sont toujours là, et alimentés à partir de 1956 par le Maroc et la Tunisie, qui sont pas loin. Oui, ça a dit.
En fait, quand on dit l'ALN et le FLN, c'est le parti, c'est un front.
Tout à fait.
Oui. L'ALN, c'est l'armée.
C'est ça.
Voilà.
C'est la branche militaire.
C'est la branche militaire. Voilà, l'ALN, c'est pas un parti politique.
Non, c'est la branche militaire.
C'est l'armée. Voilà,
c'est la branche militaire du FLN.
Exactement.
Alors Ben Bella, Ben Bella n'est pas là. Ben Bella, qui sera le futur premier président de la République algérienne, il est dans un premier temps tout simplement en prison en France. Et ensuite, il me semble, ça a dit qu'il est en Égypte.
Exactement.
À partir de quelle année ? Parce que ça, je ne l'ai pas noté.
Il est en Égypte. Parce qu'ils ont été... Je ne peux pas te dire la date exacte, mais je sais qu'ils sont... Ils étaient arrêtés, lui, Ait Ahmed, et je ne sais plus qui c'est d'autre. Donc après ça, donc il y a eu une évasion de prison et ensuite voilà, exilé en Égypte effectivement.
Alors on avance un peu dans le temps. Évidemment, ce qui va faire la différence, c'est le retour du général de Gaulle. Donc là, nous sommes en 1958. On a l'impression qu'on accueille le sauveur à Alger, hein, le fameux « je vous ai compris ». Donc pour les Français d'Algérie, pas de problème, c'est l'homme de la situation, il va trouver la solution et on va sur le territoire français. Mmh. Et évidemment, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Il y aura des négociations indirectes, évidemment, avec le FLN et le gouvernement français pour donner ce qu'on appelle l'autodétermination au peuple algérien. Et là, on est en 59. Alors évidemment, ceux qui vont très mal le prendre, il y a deux catégories de personnes qui vont mal le prendre en France, c'est l'armée, ils vont se sentir trahis, et les pieds noirs.
Oui, donc, bah, exactement.
Naissance, vous le savez, de l'OAS, l'organisation d'armées secrètes, qui va plastiquer, assassiner, etc. Donc la flambée de violence est toujours là. Qu'est-ce qui va mettre à peu près fin à ça? Ben, c'est tout simplement les accords d'Évian. Donc là, on arrive dans les années 61-62, mars 62, les accords d'Évian. Ça se fait relativement dans la douleur en mars. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre mars et juillet, moment de l'indépendance d'Algérie, la France ne s'occupe plus de la sécurité de l'Algérie et il n'y a pas de gouvernement algérien. Donc il y a eu, dans cette période-là, un flou politique total entre mars et juillet 62. D'accord. Et il y a eu, j'ai lu des récits absolument terribles de ce qui s'est passé.
Il y a eu le cessez-le-feu le 19 mars.
C'est ça, absolument.
62.
Il y a eu le cessez-le-feu, mais le temps de mettre en place le gouvernement, enfin tout simplement l'État algérien, c'est cette transition qui s'est faite dans la douleur, notamment avec une certaine catégorie de la population qui s'appelle les harkis, qui sont mal vus des deux côtés. Hein, ils sont mal vus du côté des Algériens parce qu'ils sont considérés comme des traîtres, et du côté français, ça reste des musulmans, les Algériens. Mmh. Donc ça a été terrible pour eux, eux et leurs familles.
Oui, bien sûr.
Exactement.
Alors, nous arrivons maintenant à l'indépendance. Alors, je vais laisser un peu la parole à Saadi. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe dans les années juste après l'indépendance par rapport à cet idéal qui est la naissance de la République algérienne?
Oui, si vous voulez, à l'indépendance, voilà, le peuple algérien est très content. Donc, ils sont tous sortis dans les rues, donc crier, donc voilà, de joie avec le drapeau algérien, etc. Mais bon, au niveau politique, vous savez que à l'indépendance, l'Algérie a toujours un gouvernement provisoire, d'accord, de la République algérienne. Mmh, mmh. À sa tête, il y avait donc Farhat Abbas. Qui est aussi d'ailleurs le président de l'Assemblée constituante algérienne. Après ça, évidemment, il y a ce qu'on appelle en Algérie l'armée des frontières, donc à sa tête Boumedienne.
Tout à fait. D'accord. Alors parle-nous un peu justement de ce personnage.
Voilà, donc l'armée des frontières, qui était évidemment à la frontière marocaine, c'est une armée donc, qui n'a pas vraiment combattu contre la France, donc c'est une armée donc voilà forte, on va dire. Les gens qui se sont battus contre la France étaient fatigués, donc il y a une grande partie qui sont évidemment morts, etc. L'armée des frontières donc est venue, voilà, donc avec sa puissance, donc Boumedienne, si vous voulez, a imposé un petit peu sa feuille de route.
Alors qu'est-ce qu'il fait en 65, rappelle-nous.
Donc en 62, il a bien placé donc Bembella,
oui,
qui est évidemment connu, plus connu que lui. Donc il l'a placé président de la République algérienne. Après ça, évidemment, il y a des opposants. Hein, il y a des gens qui ont évidemment organisé la révolution algérienne qui étaient contre. Donc ça, ils veulent revenir au multipartisme après l'indépendance. Et donc, en 65, donc, Boumedienne, vous le savez très bien, un coup d'État le 19 juin 65. Mm-hmm. Donc, il a enlevé Bembella, donc il a pris sa place. Il est président de la République, il est ministre de la Défense, il a pris tous les pouvoirs.
Donc, ça devient une espèce de dictateur, en fait.
Oui, si vous voulez. Donc,
sur un fond d'idéologie socialiste, on est d'accord ?
Oui, bien sûr.
Et évidemment, c'est un État socialiste qu'ils veulent construire.
Et à côté de lui, dans son gouvernement, qui fait partie de l'un de ses bras droits,
un certain
Bouteflika.
Bouteflika, tiens, le voilà. On entendra parler plus tard.
Exactement.
Et donc, Boumedienne reste jusqu'en 79.
Il reste jusqu'en, fin 78.
Et là, donc cette transition jusque Bouteflika, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement?
On va dire, Boumediene est décédé donc fin 78. Évidemment, Bouteflika espérait prendre sa place.
Oui.
Et les décideurs ont dit non. Donc, ils ont choisi Chadli, qui était un général de l'armée, choisi parce qu'il est le plus âgé de l'armée.
D'accord.
Et Chadli a gouverné jusqu'en 92.
Ah, c'est pas rien.
Mais avant 92, il y a quand même un événement énorme en 1988. Hein, octobre 88, il y a eu donc, les Algériens qui sont sortis dans toutes les rues manifester. Des manifestations qui sont réprimées par les militaires. Donc il y a eu beaucoup de morts. Après ça, ben, les Algériens ont obtenu au fait, le multipartisme enfin. Parce qu'avant, c'est toujours le parti unique. Donc à partir d'octobre 88, donc on a légalisé pas mal de partis. On n'a même pas respecté la constitution algérienne puisqu'on a aussi légalisé un parti islamiste, donc le FUIS.
Oui.
Ce parti-là, donc il y a eu des élections, hein, vous le savez, les élections en 92. Premier tour, donc le FUIS est... voilà, il est en tête. Deuxième tour, donc interruption donc du processus électoral. On a donc installé donc ce qu'on appelle en Algérie donc HCE, le Haut Comité d'État. Voilà.
Ok. Et c'est le début, je dirais, de ce qu'on va appeler ensuite la guerre civile dans les années 90. On va faire une petite pause musicale, d'accord ? Et on reprend tout ça après une pause musicale.
Nous allons écouter donc à nouveau une chanson de Idir.
Hey, 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 hey
Vous écoutez Pocamenteur sur Calade. Nous faisons une émission spéciale sur l'Algérie. Donc, je vais relaisser la parole à Franck et à notre invité Sadi. Nous parlions donc du début de la guerre civile. On ne va pas s'arrêter sur la guerre civile puisqu'on en a parlé dans une précédente émission, mais on va s'intéresser à l'arrivée de Bouteflika au pouvoir. Sadi.
Oui, alors je continue. Donc en 92, donc on a installé ce qu'on appelle le HCE, donc présidé par Boudieff, qui était exilé pendant 30 ans d'ailleurs au Maroc, qu'on a été chercher en lui disant voilà, vous êtes le sauveur. Donc il a pris les rênes de ce HCE pendant 6 mois. Puis après, comme vous le savez, on l'a assassiné en direct à la télévision d'ailleurs, hein, donc en train de faire un discours. Voilà. Après ça, donc on a placé donc un général, hein, qui s'appelle Zerwal,
oui.
Donc qui a pris aussi les destinées du pays pendant de 92 à 94, hein, donc pendant 2 ans.
D'accord.
Donc il a pas voulu rester au pouvoir. Hein, donc on dit de lui que c'est quelqu'un de vraiment de très intègre, qui n'est pas incorrompu, etc. Donc que le peuple d'ailleurs aime bien.
D'accord.
Après ça, donc lui, il a arrêté en 94. En 99. Donc on a été chercher donc Bouteflika, qui était d'ailleurs pendant plusieurs années dans les pays du Golfe.
Ouais, parce qu'il avait quelques casseroles sur le dos, le petit
exactement,
gars Bouteflika, il revient blanchi, on ne sait pas.
Exactement, à la fin des années 78, lorsque Boumediene était décidé, donc il est même d'ailleurs condamné par la Cour des comptes algérienne pour corruption.
Voilà. Prononçons le mot.
En 99, on a été le chercher, comme le sauveur de l'Algérie. Donc, il arrive, on organise des élections présidentielles avec des opposants, bien sûr, qui ont cru vraiment à ces élections. La veille des élections, donc, la triche a commencé. Tous les candidats se sont retirés et Bouteflika est resté tout seul en 99.
Donc, c'est des élections entre guillemets.
Ouais, exactement. Ils ont quand même continué le vote, etc.
Est-ce que les candidats ont subi des pressions des autres candidats?
Non, ils se sont retirés.
Ils se sont retirés.
Oui, parce que le dé était pipé, donc ils ont estimé qu'ils voulaient pas participer à cette mascarade. Je pense.
Parce que la veille du vote, vous savez, toute l'armée, les pompiers, etc., votent la veille. Donc la triche a commencé la veille, donc ils se sont retirés. Voilà.
Je vais donner quelques infos sur les chiffres qu'a obtenu Bouteflika, et tout de suite on voit que ça paraît pas catholique. C'est peut-être pas le bon mot pour l'Algérie.
Le monde n'est pas très pertinent, Patrick.
D'accord. Ok, donc on va continuer là-dessus, d'accord. On va s'intéresser aux années Bouteflika maintenant, sur un plan politique comme économique. Donc on l'a dit, hein, il a été longtemps ministre sous Boumediene, il a des heures de vol, il s'est exilé à cause d'accusations donc de corruption, d'extorsion de fonds. Quand il est élu, dans les conditions que Sadi vient de nous expliquer, en 99, il est élu avec entre 70 et 80% des voix, hein, d'accord, c'est formidable. Il va être réélu en 2004, en 2009 et en 2014 avec à chaque fois, un vrai cador, plus de 80% des suffrages. Donc on a un poil du mal à croire à la crédibilité, à la légitimité même, je dirais, de ces élections. Alors je fais une petite présentation rapide pour l'instant et après on va revenir un peu dans le détail. 2013, il a un accident vasculaire cérébral. D'accord. Et on peut commencer à douter fortement qu'il soit vraiment en état d'assumer ses fonctions de chef de l'État à partir de là. Pour autant, sans problème, il continue. Il est réélu en 2014.
Et je crois, Patrick, qu'il a été soigné en France, non?
Oui, bien sûr, tout à fait.
En Suisse.
Ne fait pas partie de la France, t'es au courant.
Attention, tu prends de géo,
ne
je te
va
rappelle,
pas hein. vexer les Suisses. Il va devenir une sorte de président fantôme, quelque part, hein, qui apparaît plus en public à partir de ces années 2013. Et donc, on peut se poser la question, qui gouverne réellement? On va revenir ensuite, plus tard, hein, sur les événements plus récents. On va maintenant s'intéresser donc à son bilan politique et économique. Déjà, il avait déjà, à un moment où il avait déjà fait 2 mandats, donc 99 et 2004, il fait voter, devinez quoi, à main levée par le Parlement, l'annulation de la limite constitutionnelle à 2 mandats maximum. maximum que peut faire le président de la République. Donc à main levée, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup de députés qui vont s'y opposer. D'ailleurs, il y en a seulement 8 et 500 vont dire oui. Ok, pas de problème. Pour information, cette idée de faire sauter la limitation des deux mandats maximum, ça rappelle un peu l'émission qu'on a fait le mois dernier sur le Venezuela de Chavez, où Chavez avait eu cette même obsession, sauf que lui, il a quand même respecté des règles, Chavez, je parle, en passant par un référendum à chaque fois. Et il a gagné le deuxième. Mais bon, fin de la parenthèse. Alors sur un plan politique, on va revenir un petit peu en arrière sur son premier mandat. Qui va être l'occasion donc de tourner la page de la guerre civile, la terrible guerre civile. Donc il va promulguer en septembre 99 une loi dite de la concorde civile pour ça. Alors il va y avoir une amnistie partielle pour les islamistes, une libération des militaires emprisonnés pour avoir attaqué des membres du FIS, une aide aux familles des victimes des islamistes, etc., etc. Il y aura une deuxième partie dans cette volonté qui sera en 2005 d'aller beaucoup plus loin avec un référendum à l'algérienne, on est d'accord, contrôle des médias absolus, intimidation, etc. Donc remporté avec un pourcentage à l'algérienne, même pire cette fois-ci, à 97%. Et ce référendum va lui permettre de mettre en place des amnisties totales pour les auteurs de massacres, pour les membres des services de sécurité, une peine de prison de 3 à 5 ans pour ceux qui oseraient continuer à aborder le sujet. Tout ça, c'est permis par le référendum. Concrètement, ce qui est dit, j'ouvre les guillemets, c'est quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, respirons, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servi ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Bon, en gros, ça veut dire taisez-vous, on n'en parle plus. Il va jouer un petit jeu permanent du chat et de la souris avec l'armée durant tous ses mandats. D'accord, pour essayer de s'extraire de l'influence très très forte de l'armée sur le pouvoir algérien. Il ne va jamais y réussir complètement, même s'il a quelques réussites dans ce domaine. En 2015, par exemple, il va faire arrêter des hauts gradés militaires qui sont plutôt contre lui. Bon, je pourrais citer des noms, mais ça ne va pas dire grand-chose à tout le monde. Donc il y a toujours en sous-main ces luttes de pouvoir entre les courants forts, hein, quelque part, du pouvoir algérien occulte. Il y a l'armée, les services secrets et le clan Bouteflika. Dans ce contexte, bien sûr, on se doute bien que la liberté de la presse, c'est pas top, hein, elle est largement entamée. Dans ce contexte aussi, la corruption va exploser durant ces années-là. Sur le plan international, il y a des tensions avec le Maroc. Autour du Sahara occidental, ça ne va pas bouger grand-chose. Il ne va pas vraiment solutionner quoi que ce soit. Au fil des années, l'Algérie va se refermer sur elle-même et jouer un rôle de moins en moins actif sur la scène internationale. Alors que c'était un pays de référence avec une image forte du fait de son indépendance. D'accord ? Donc ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, je vais accélérer un petit peu. Sur le plan économique, c'est un pays qui a une chance, mais une chance entre guillemets, on en a déjà parlé avec le Venezuela, c'est qu'il a du pétrole et du gaz, d'accord ? Et ce genre de chance, c'est une chance qui se retourne souvent contre le pays, c'est-à-dire que le pays va rester dans une facilité d'exploiter les richesses économiques et d'encaisser les recettes du pétrole qui vont être dans les années 2000 assez fortes puisque le pétrole a des cours assez élevés. Donc ça va un peu booster l'économie durant un certain nombre d'années. Le chômage va diminuer, mais pas le chômage des jeunes, qui va rester toujours très très fort. Il y a un petit peu d'investissement étranger, mais ça ne va pas durer très longtemps. En fait, malgré tout, au fil des années, un peu comme au Venezuela, mais catastrophique, il va y avoir un grand échec d'une logique de diversification. Grand échec et vraiment des élites au pouvoir, entre guillemets, qui vont se payer sur la bête, hein, via la corruption.
Alors une petite question, Patrick, est-ce que le PNB par habitant a évolué positivement durant cette période ?
Ouais, positivement, oui, c'est pas la catastrophe du Venezuela, mais c'est quand même, quand le prix du pétrole a s'est effondré dans les années 2011-2012, les recettes se sont effondrées, et là, toutes les largesses, n'ont plus été possibles, hein, d'accord ? Et donc le pays s'est retrouvé en difficulté à nouveau. Voilà, c'était un petit exposé de la situation politique et économique des années Bouteflika. On va faire une deuxième pause musicale avec un chanteur qui s'appelle Lounès Matoub. C'est parti. Thank you.
تخلي تستفكين نوفام ويبغان ذي يسور يرقق في الناس درسو الحرمان ويسمور عاد دي الحيق ومدك والأشقيق هذا غد يحكوا مش ضمران يجي ياغد الخيق ذي ثوني سندق وسماء صدفرق ندوران ويسمور عاد دي الحيق ومدك والأشقيق هذا غد يحكوا مش ضمران يجي ياغد الخيق ذي ثوني سندق وسماء صدفرق ندوران يما صرت سفير في السكولة مضي قرد الجرام صمس يكشم الحباس وين طرد صريرا الحكمان الساس وجنويل نحاس يتني من انتاسا شوك غطيا وضواس يمس ذن المواسم شو ما تلحق ذيدا الحكمان الساس وجنويل نحاس يتني من انتاسا شوك غطيا وضواس يمس ذن المواسم شو ما تلحق ذيدا تسقي الكسي كومي صار عندك استفرامي ميو ولوك ندخل البحار عتي ذقرت المواجي ذا عشم سلم كوريه ولي غارات ضمم في شعل بيو امي خاسي ينطر عادي صفر الشر ما تشيف شمال مكنوي اذا عاش مسير من كل عريه ولي غارات صمم في شعل بهيم امي خاسي ينطر عادي صفر الشر ما تشيف شمال مكنوي ندغي فروي في السما ذي البرنغ في الخليم محبوس مذيا في الحق صنعي كي صرا جو ربي يا صرا طار وحديس من سبليس فيك تسقولة ونادي دير كليم لقفايل السرفيس ود غسم الديفيس ثني السنجر وجليم يا صرا طار وحديس من سبليس فيك تسقولة ونادي دير كليم لقفايل السرفيس ود غسم الديفيس ثني السنجر وجليم لقفايل السرفيس ود غسم الديفيس ثني السنجر وجليم لقفايل السرفيس ود غسم الديفيس ثني السنجر وجليم لقفايل السرفيس ود غسم الديفيس ثني السنجر وجليم
Alors, vous écoutez bien Poker Menteur, Radio Calade 100.9, une émission spéciale sur l'Algérie. Et nous venons d'écouter donc Lounès Matoub. Lounès Matoub, ça a dit. Explique-nous un peu ce qui est arrivé.
Oui, alors, Matoub Lounès, c'est un grand chanteur kabyle, donc c'est un chanteur engagé qui a toujours défendu la cause berbère en Algérie, donc a défendu la liberté. Donc il a été, on va dire, déjà, on lui a tiré dessus avec plusieurs balles en 88, hein, en octobre 88, mm-hmm. Les événements d'octobre 88. Donc après ça, donc, voilà, et on va dire, ils l'ont raté. Puis après, malheureusement, en 98, donc il est rentré pour quelques jours en Algérie, parce qu'il vivait en France. Il est rentré quelques jours en Algérie, et malheureusement, un faux barrage, et puis il a été tué en présence de sa femme dans sa voiture. Voilà, d'accord. Et à ce jour, voilà, on ne sait toujours pas qui a tué Matoub Lounès.
Une fin vraiment tragique.
L'enquête est toujours ouverte, voilà, donc qui n'avance jamais.
Alors, nous en sommes maintenant un peu la réflexion sur les 2010 et les printemps arabes, Patrick.
Oui, avant d'en venir à la situation actuelle, puisque tout ça va nous mener à la situation actuelle, vous vous en doutez bien, on va faire un petit passage par les printemps arabes qui sont advenus donc, dans les années 2010. Et pour introduire ces printemps arabes et la question pourquoi l'Algérie s'est tenue à l'écart, je vais parler de deux démographes, Emmanuel Todd et Youssef Courbage, qui ont publié un peu avant, en 2007, un livre qui s'appelle « Le rendez-vous des civilisations ». Dans ce livre, qui faisait référence au choc des civilisations de Samuel Huntington, pour, en passant, ils affirment, analysés à l'appui, que les populations arabes sont engagées dans une évolution qui va les mener inéluctablement à plus de liberté et plus de démocratie, du moins à réclamer plus de liberté et plus de démocratie. Alors, pour appuyer leurs affirmations, ils s'appuient sur des éléments très basiques, mais décisifs, des éléments décisifs dans le développement d'un pays. Ces éléments, c'est quoi ? C'est savoir lire et écrire, le taux d'alphabétisation, parce que quand on sait lire et écrire, on peut lire un tract, on peut même en écrire un, et la participation politique devient un processus naturel. La maîtrise de la fécondité, qui est le résultat de l'alphabétisation des femmes. Les jeunes vont être moins nombreux, mais plus éduqués. Et une rupture générationnelle va se produire souvent avec les parents. On n'est plus dans la même culture, on n'est plus dans les mêmes valeurs, on n'est plus dans les mêmes exigences. Et enfin, le troisième point, une baisse des taux de mariage endogames, c'est-à-dire entre cousins. Alors ça, ça paraît étonnant, mais l'idée, c'est que les mariages endogames, c'est très emblématique d'une société fermée sur elle-même. Et que cette diminution de l'endogamie conduit à une société plus ouverte sur l'extérieur, sur l'espace public. Et ces trois, donc, ces trois notions se vérifient, d'accord ? Ces trois statistiques-là se vérifient et vont dans le bon sens dans tous les pays du Maghreb. Et c'est ainsi que, donc, dans leur livre, ils annoncent un petit peu ce qui va se produire trois ans après. Ils sont un peu, ils font un peu une prévision prémonitoire. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, ça se démarre en décembre 2010, en Tunisie, à Sidi Bouzid, des événements qui vont mener au départ de Ben Ali du pouvoir tunisien sur un fond de demande de démocratie, de partage des richesses, de meilleures conditions de vie, de création d'emplois, etc. En Égypte, c'est Hosni Moubarak qui va être contraint de quitter le pouvoir pour les mêmes raisons. Au Yémen, même chose, le dictateur en place est contraint de s'en aller. En Libye, ça va se passer différemment puisque ça va tourner à la guerre civile avec l'intervention internationale catastrophique que l'on connaît, merci M. Sarkozy, qui amène la chute de Kadhafi et un véritable chaos qui continue actuellement. En Syrie, c'est encore pire, je dirais, c'est le début d'une guerre civile terrible qui va être la guerre syrienne, qui va avoir les conséquences qu'on connaît également. Au Maroc, le pouvoir va assez habilement lâcher du lest et faire des concessions démocratiques mesurées et stabiliser la situation. Voilà. Et on n'a pas cité l'Algérie dans tout ça. Donc l'Algérie, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, des manifestations vont démarrer de la même manière fin 2010, tout fin 2010, dans un contexte d'augmentation forte des coûts de l'alimentation. Sadi, tu veux nous en dire un peu plus ?
Oui, pourquoi l'Algérie ? Ben écoutez, je pense que moi je considérais que le printemps algérien s'est déroulé en octobre 88.
Ouais.
C'est là où on a en fait supprimé le parti unique et on est passé à un système de multipartisme avec une liberté, donc des partis politiques d'opposition, etc. Je pense que c'est là. Et aussi, je pense qu'avec la guerre civile, comme vous le savez, les islamistes, etc., donc toute cette guerre-là qui a produit évidemment beaucoup de morts en Algérie, beaucoup de catastrophes. Donc le peuple algérien, évidemment, fatigué, ne veut plus d'une autre guerre civile, etc. C'est pour ça qu'au moment, on va dire, des printemps arabes en 2010, les Algériens ont déjà eu leur printemps, on va dire, bien avant, hein, donc 20 ans avant.
Voilà. Alors pour finir sur ce sujet, concrètement, ça va être très rapide, il va y avoir des manifestations tout le mois de janvier et le gouvernement algérien va lâcher du lest, il va profiter de ses recettes financières issues du prix du pétrole qui était assez élevé à l'époque. Ils vont lâcher énormément de lest, c'est-à-dire des programmes de plusieurs milliards d'euros pour soutenir, réduire les taxes sur les produits alimentaires, soutenir socialement la population. Ils vont ouvrir un petit peu les antennes de la télé et de la radio publique à des associations, à des mouvements autorisés. Il va y avoir énormément de grèves catégorielles qui vont être beaucoup satisfaites. Leurs revendications vont être beaucoup satisfaites. Donc, quelque part, cette stratégie qui consiste à lâcher du lest les gains obtenus suite aux multiples grèves peut expliquer, avec le souvenir cuisant de la guerre civile, que ça en soit resté là. Oui, Sadi.
Oui, je veux juste rajouter une chose. C'est que l'Algérie, dans ces années-là, on va dire à partir de l'accession de Bouteflika au pouvoir, le pétrole, effectivement, coûte très cher. Ouais. Donc l'Algérie avait beaucoup d'argent. Donc ils ont cumulé plusieurs milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Mm. Donc ils ont pu, au fait, distribuer
Tout à fait.
Une partie au peuple. Donc oui. C'est pour ça, le peuple algérien ne s'est pas révolté en 2010, au moment que les autres pays arabes. Moi, je dirais que la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, ces pays-là qui se sont révoltés en 2010, n'ont pas les moyens qu'a l'Algérie pour justement
totalement,
distribuer.
Totalement. Voilà. Ouais. Et ça explique aussi pourquoi il n'y a pas eu vraiment de printemps arabe en Algérie.
Exactement.
Alors nous arrivons justement à la période plus ou moins actuelle. Donc il y a eu quand même un coup de théâtre il y a quelques semaines quand l'ensemble du monde a appris que Bouteflika, qui au départ, Saadi, tu peux me rappeler là-dessus, devait se représenter et pour finir, effectivement, est écarté du pouvoir et ne va pas se présenter à la prochaine présidentielle.
Alors, si tu le veux bien, Franck, on va faire déjà un petit rappel factuel des événements, je dirais, qui sont très ramassés dans le temps. Et puis ensuite, on va en discuter. D'accord. Donc, c'est le 16 février 2019 qu'à Kerata, à proximité de Béjaïa, des centaines d'Algériens sortent dans la rue. Pour protester contre quoi ? Eh bien, contre l'annonce d'un cinquième mandat de Bouteflika, qui est complètement grabataire, qui n'apparaît plus en public. Et là, il y a un moment, je pense, je me mets dans la peau des Algériens, on dit qu'il faut arrêter de se foutre du monde, quoi. Oui.
Juste, je vais rajouter une petite précision. Au moment où il a annoncé sa candidature pour le cinquième mandat, M. Bouteflika était quand même dans un hôpital en Suisse.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, je pense que déjà en 2014, lorsqu'il s'est présenté pour son quatrième mandat, il était déjà malade. Ouais. Et puis, évidemment, on a validé quand même sa candidature au prix du Conseil constitutionnel.
Est-ce qu'il a encore du CID ? Enfin, la question est là. Est-ce qu'il a encore du CID ? Il se rend compte de la situation ?
En tout cas, les Algériens vous disent voilà, c'est pas lui qui gouverne, il est malade.
Mais il n'est plus apparu en public depuis plusieurs années.
Il ne s'est pas adressé au peuple algérien depuis des années. Oui. Quand on a annoncé le cinquième mandat, les Algériens ont dit stop, ça y est, là, on arrête. C'est trop.
Voilà. Alors, je continue mon petit relevé des événements, en quelque sorte. Les réseaux sociaux vont beaucoup relayer ces appels. Et il y a une première manifestation nationale qui a lieu le 22 février. Et on va avoir 800 000 manifestants à Alger. C'est déjà impressionnant. Le 1er mars, des millions d'Algériens sont dans la rue. Ça se succède à vitesse accélérée. Pour autant, deux jours après le 3 mars, la candidature de Bouteflika est annoncée officiellement. Donc ça ne fait que renforcer la détermination des Algériens. Le 8 mars, c'est le troisième jour de manifestation monstre dans toute l'Algérie. Le 11 mars, la présidence, donc 3 jours après le 8 mars, annonce l'annulation des élections, la tenue d'une conférence nationale, un référendum populaire pour la révision de la Constitution et des élections présidentielles. Ça n'arrête pas les manifestations qui, le 15 et le 22 mars, continuent de façon massive. Fin mars, Bouteflika est lâché par tout le monde, le FLN, l'armée, et le 2 avril, il abandonne officiellement son mandat présidentiel. Voilà un petit peu ce qui s'est passé de façon très très ramassée, vous voyez, en l'affaire d'un mois et demi, c'est réglé. Donc, pour rappel, oui, Bouteflika, c'est un AVC en 2013, c'est quelqu'un qui était déjà malade régulièrement depuis longtemps, depuis 2005, et qui a disparu de la scène politique après son AVC. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de cette situation, maintenant qu'on en est là ? Saadi, on te laisse la parole ?
Ben écoutez, moi je pense que les décideurs vont quand même écouter le peuple pour arriver justement à ce qu'ils demandent, c'est-à-dire la démission de Ben Salah, donc qui est évidemment quelqu'un placé, désigné par M. Bouteflika. Le gouvernement actuel, donc dirigé par le Premier ministre Bedoui, désigné aussi par Bouteflika, donc le peuple demande sa démission. En fait, le peuple demande un gouvernement de transition pour organiser des élections présidentielles honnêtes, libres. Ouais. Pour désigner un président qui va ensuite, évidemment, réformer la Constitution.
Avec une réelle opposition.
Avec une réelle opposition, évidemment.
Et des élections libres, parce que c'est quand même la grande question.
Donc le peuple, actuellement, n'a pas satisfaction de tout ce qu'il demande. C'est pour ça qu'il continue, en ce moment, tous les vendredis, des manifestations, et même les autres jours de la semaine. Et même là, on est en période de Ramadan, évidemment. Ouais. Le pouvoir, on va dire, les décideurs... pensent que le peuple algérien vont peut-être s'arrêter pendant le mois de Ramadan, etc. Mmh. Mais le peuple donc persiste ici, il continuera à manifester jusqu'à l'obtention justement des revendications, c'est-à-dire le départ du système, c'est-à-dire les gens placés par M. Bouteflika qui sont toujours là.
Si tu le veux bien, je vais en dire quelques mots. On va essayer de regarder un peu ce qui se passe derrière les apparences sur le pouvoir algérien. On pourrait dire que le pouvoir en Algérie est détenu par trois groupes. Le groupe Bouteflika, déjà, premièrement. Et ensuite, je les ai cités déjà précédemment, les services secrets. Et le troisième, c'est les militaires, c'est l'armée. Et ce trio de groupes forme un système qui contrôle la vie politique, qui entretient la corruption et le népotisme. C'est des gens qui massivement bénéficient de l'argent du pétrole, d'accord, et qui d'ailleurs n'ont pas franchement intérêt à faire ce qui est pourtant nécessaire pour l'Algérie, c'est-à-dire diversifier l'économie algérienne. Non, ils n'ont pas intérêt parce que tout l'argent qui vient du pétrole, ça finit dans leur poche, hein, globalement, massivement. Enfin, pas tout, mais une bonne partie finit dans leur poche. La question, c'est qui va nommer le successeur de Bouteflika. Et là, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé très récemment. Mais d'abord, je laisse la parole à Sadi.
C'est juste pour dire, vous parlez tout à l'heure de la diversification de l'économie algérienne. Effectivement, le pouvoir a essayé depuis des années, des dizaines d'années à diversifier cette économie, donc il l'a pas pu, c'est un échec total. Moi je dirais il y a un grand industriel, quand même je vais dire un mot sur un grand industriel algérien qui est à la tête de Civital, qui s'appelle donc Rebrab, et lui donc ne soutenait pas le clan de Bouteflika, donc qui était un petit peu à l'écart, et il a diversifié donc son entreprise, hein, donc il a investi dans pas mal de choses, donc il a créé des milliers d'emplois. Il a même donc racheté récemment une entreprise ici en France. Donc c'est vraiment quelqu'un de compétent. Et en ce moment, les résidus, on va dire, du pouvoir de Bouteflika, ils l'ont mis en prison.
Ah ouais.
C'est gravissime, carrément, ça. C'est gravissime.
Carrément, d'accord. En prison, et beaucoup de gens dans le pays, en Algérie, donc manifestent pour sa libération.
D'accord. Voilà. Alors donc, ça, c'est une caractéristique de ce pouvoir plus ou moins occulte en Algérie, qui consiste à écarter les figures indépendantes potentiellement dangereuses. Il y a pas très longtemps, en 2015, quelqu'un qui était pourtant dans ces groupes assez puissants, le dirigeant des services secrets, Mohamed Medienne, avait été mis à la retraite d'office. Et là, encore plus récemment, puisque là, ça date d'il y a 3-4 jours, il s'est passé quoi ? Il s'est passé plusieurs choses. C'est-à-dire que le même Mohamed Medienne qui est à la retraite, l'ancien dirigeant des services secrets, son successeur, le dirigeant actuel, Atman Tartag, ont été arrêtés avec, devinez qui, avec le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Qui est derrière tout ça ? C'est l'armée. L'armée est en train de faire le ménage. Et l'homme fort de l'armée qui fait le ménage, c'est Ahmed Gaït Salah. Je m'excuse de la prononciation, si elle n'est pas bonne.
C'est ça.
C'est le chef d'état-major de l'armée. Vas-y.
La dernière nouvelle, moi, que j'ai eue, c'est que... Mais c'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est qu'on on a arrêté donc, une opposante, d'accord, algérienne. Donc à la tête d'un parti politique en Algérie, qui s'appelle donc Louisa Hanoun, actuellement elle est en prison. Ouais, voilà, je ne comprends rien. Voilà.
C'est ça qui est terrible.
Incroyable, qui détient le pouvoir, qui met qui en prison.
Donc c'est un peu du stop et encore, on a l'impression que ça continue.
Exactement. Oui, exactement. Les pratiques ne changent pas, on est à fond dans les mêmes pratiques.
C'est pour ça que voilà, le peuple continuera jusqu'à faire tomber ce système. Il n'y a que le peuple qui peut faire quelque chose.
Oui, je vois que ça, parce qu'en fait, on voit quand c'est l'armée, quand c'est pas l'armée, c'était Bouteflika. Là, maintenant, c'est l'armée qui reprend le contrôle. Elle se débarrasse de ses opposants, en fait, qui étaient en train de préparer la suite, mais sans eux. Donc, on reste quand même sur un système où il y a un contrôle plus ou moins occulte ou plus ou moins voyant de la part de l'armée actuellement. Et voilà, donc la grande question, c'est comment faire pour se débarrasser. Et comme tu le dis, Sadi, je vois pas d'autre solution que des manifestations massives.
Exactement.
De la part des Algériens.
Exactement. Les manifestations vont continuer, à mon avis. Et moi, je vais dire un mot quand même par rapport au peuple algérien qui manifeste maintenant depuis des semaines. Je dis bravo à ce peuple. C'est des manifestations pacifiques, dans la bonne ambiance, on va dire. J'espère qu'ils vont continuer à manifester et j'espère qu'ils vont avoir gain de cause et qu'ils vont finalement se débarrasser de ce système. Voilà. Ouais. Parce qu'il y en a marre.
Est-ce qu'une des solutions en plus pourrait aussi voir des manifestations en France, par exemple, pour justement influencer et plus parler de ce phénomène qui est en fait relativement occulte encore dans les médias français. On en parle très peu en France.
En fait, pour la France, voilà, l'Algérie est une question un peu sensible.
Ouais, bien sûr,
ça, on le sait. Quelle que évidemment. Soit la position qu'on prend, voilà, c'est lu d'une autre façon. Moi, je pense que la France doit rester neutre, sans soutenir ni les militaires, ni les généraux, ni personne. Donc, rester neutre et défendre, évidemment, ses principes, c'est-à-dire démocratie et liberté dans tout le monde. Voilà.
Ok. Alors, je ne veux pas jouer les oeufs de mauvais augure. La grande peur que j'aurais, entre guillemets, si des manifestations monstres redémarrent après le Ramadan, par exemple, pour vraiment essayer de faire sauter le verrou de l'armée, en quelque sorte, ce serait une éventuelle répression à la chinoise, hein, je dirais, type Tiananmen. Bon, après, sur un plan médiatique, ce serait catastrophique pour eux, parce que là, ce serait vraiment... dans un monde aujourd'hui où la médiatisation est universelle et puis instantanée, ce serait assez catastrophique. Mais est-ce qu'il n'irait pas jusque-là, le pouvoir algérien, pas le pouvoir, mais l'armée algérienne, je ne sais pas, c'est toute la question.
Je pense, vous avez parlé tout à l'heure des manifestations en France, il faut savoir que les dimanches, donc les manifestations sont organisées maintenant depuis plusieurs semaines à Paris, donc place de la République, par plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent.
À Lyon aussi, j'en ai vu à Lyon aussi.
Tous les dimanches, à la place donc, de la République à Paris, et à Lyon, et même aussi au Canada. Hein, donc il y a des Algériens qui manifestent un peu de partout. Je pense que, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de violence. J'espère que les militaires ne vont pas utiliser la violence, parce que ça va être la catastrophe, et pour les militaires, et pour le peuple algérien. Donc ça va être le chaos.
Voilà. Tout à fait.
Bien, essayons d'être positifs pour la fin d'émission. Alors, on va revenir rapidement sur le qui suis-je. Le qui suis-je, souvenez-vous, j'ai été assassiné en direct à la télévision. D'ailleurs, Sally nous en a parlé un petit peu. Il s'est trahi. Un des créateurs du FLN, il s'agissait évidemment de...
Vas-y.
Ah, de Boudieff.
Boudieff qui imaginez quand même se faire assassiner en direct.
Sincèrement, c'est quelqu'un qui est venu 6 mois en Algérie. Donc, il a commencé à faire de très, très belles choses. Donc, le peuple commence à lui faire confiance. Et il commence à s'attaquer à la corruption. C'est quelqu'un qui sait parler aux Algériens. Donc, le peuple commence à bien l'aimer. Et malheureusement, voilà. Donc, ils nous l'ont assassiné en direct à la télévision. C'est honteux. La France n'a pas pu l'assassiner pendant la guerre de libération. Et malheureusement, il a été assassiné par ses enfants.
D'accord. OK.
Eh bien, je crois qu'il va falloir nous dire au revoir après ce très, très bon moment. Hein, on va dire au revoir à Sally.
Merci.
Et bon cours dans les jours qui arrivent. Bonne fin d'année scolaire.
Merci.
Patrick, au mois prochain.
Au mois prochain. Mathieu, merci.
Merci, Mathieu. Merci. Et bonne soirée à tous. Poker menteur. Avec... Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.